quoi.
À Montpellier, sur Internet, à la radio, sur votre téléphone et en DAB+, il est 10h sur Radio Aviva. Radio Aviva, le Flash Info.
Bonjour à tous. La France sera-t-elle sanctionnée par les agences de notation? Moody's et Fitch doivent rendre ce soir leur verdict sur la dette souveraine française. Annonce qui intervient dans le contexte d'aggravation du déficit public. Une baisse de la note française ne serait pas une catastrophe à proprement parler, mais elle pourrait accroître la pression sur le gouvernement déjà contraint d'annoncer de multiples économies budgétaires. Des mois de travail, des heures d'audition et finalement un rapport rendu il y a un an, celui de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Les 184 membres tirés au sort se retrouvent pour une ultime session aujourd'hui et demain. Ils seront reçus en fin de journée par Emmanuel Macron alors que le texte, lui, est attendu à l'Assemblée nationale à partir du 27 mai. Les managers de Kenji Girac appellent au respect de son temps de convalescence. Ils regrettent que le procureur ait divulgué son intimité privée et familiale. Réaction après la conférence de presse du procureur de Mont-de-Marsan qui a détaillé hier les éléments de l'enquête et ce, après la blessure par balle du chanteur en début de semaine. Kenji aurait voulu simuler un suicide suite à une dispute avec sa femme. Il était très alcoolisé et des traces de cocaïne ont aussi été retrouvées dans ses analyses de sang. L'enquête ouverte pour tentative d'homicide s'oriente vers un classement sans suite. Un bâtiment de Sciences Po Paris, occupé ce matin par des manifestants pro-palestiniens, une cinquantaine d'étudiants ont campé à l'intérieur de l'école dans le sillage des actions menées en ce moment dans des universités américaines. Hier, de jeunes militants avaient déjà investi le site parisien avant d'être expulsés par les forces de l'ordre. La production mondiale de vin à son plus bas niveau depuis plus de 60 ans, elle a chuté de 10% en 2023 sous l'influence des sécheresses, des vagues de chaleur, du gel précoce ou encore des inondations. La récolte a particulièrement souffert en Italie et en Espagne alors qu'elle a légèrement progressé en France, faisant de l'Hexagone le premier pays producteur de vin au monde. Et puis après 4 ans d'attente, Eminem annonce la sortie de son 12e album pour cet été. Une véritable bombe dans le monde du rap puisque l'artiste américain tease la mort de son alter ego Slim Shady. Voilà pour l'info. Très bonne journée à tous.
La météo dans les Hauts.
Bonjour à toutes et à tous. Le temps est nuageux et pluvieux aujourd'hui dans les Hauts. Ce matin, on note entre 11 et 13 degrés sur l'ensemble du département. Cet après-midi, on pourra observer jusqu'à 17 degrés à Lunel. Demain samedi, de la pluie sera toujours au rendez-vous. Il fera 13 degrés le matin et 16 degrés l'après-midi à Montpellier. Je vous souhaite de passer une belle journée à l'écoute des programmes de Radio Aviva.
Radio Aviva à Montpellier, Lunel et Murviel-et-Montpellier, 88 FM, en DAB+, et partout dans le monde, radio-aviva.com. Question de santé.
Question de santé.
Le rendez-vous santé de Radio Aviva.
Bonjour à toutes et à tous. Il va être question aujourd'hui d'une pathologie qui touche 90 000 personnes dans le monde, 7 000 malades en France. Je veux parler de la mucoviscidose. Pour évoquer d'abord cette maladie génétique et puis les progrès qui ont été faits, des progrès notoires, Patrick Morel est avec nous justement faire le point 5 ans après l'émergence d'une trithérapie. Patrick Morel, vous avez été directeur de recherche à l'INSERM, directeur scientifique d'une entreprise de biotechnologie, d'une start-up.
Ouais.
Donc vous êtes bien placé pour faire le point sur la mucoviscidose. Alors une mucoviscidose qui donnait une qualité de vie terrible et une espérance de vie extrêmement faible. Hein, c'était...
Exactement. Si on remonte aux années 50, les enfants atteints de mucoviscidose mouraient après la première année. Alors dans les années 60, on est passé à 5 ans. Et puis ça a augmenté un peu parce qu'en fait, il y a eu tout un tas de thérapies symptomatiques. Hein. On ne soignait pas la cause de la maladie, mais on soignait les symptômes.
Pour avec essayer des antibiotiques, de respirer, hein, de ne pas avoir de surinfection.
Des anti-inflammatoires, exactement, voilà. Tout ça. Et jusqu'à la transplantation pulmonaire, évidemment.
Ouais.
Et pour arriver en 2015 à une durée de vie de l'ordre d'un peu moins de 40 ans.
Ouais. Donc,
et alors, à partir de là, effectivement, il y a eu des progrès énormes qui ont abouti à cette trithérapie dont nous allons parler aujourd'hui.
Voilà, pour nos auditeurs et auditrices, je voudrais qu'on rappelle un peu quelle était cette maladie. C'est une maladie génétique, l'avez dit, découverte il y a fort longtemps.
Oui, alors...
constatée.
Oui, la mucoviscidose, en fait, c'est une maladie génétique, donc, dont on sait que... elle est présente depuis au moins 5000 ans. En particulier, elle a été...
Alors, comment on sait ça ?
On sait ça parce qu'on a fait des analyses sur des ADN anciens prélevés sur des humains dans des études archéologiques. Maintenant, vous savez, on a séquencé le génome de Néandertal. Donc, ce n'est pas compliqué de séquencer le génome d'un être humain d'il y a 5000 ans. Et c'est là qu'on a retrouvé, donc, sur ces êtres humains décédés il y a plus de 5000 ans, eh bien, des mutations qui sont encore en cours aujourd'hui sur le gène donc, de la protéine qui est impliquée dans la mucoviscidose. Alors, ce gène s'appelle CFTR.
Parce que c'est une fibrose transmembranaire, hein,
c'est compliqué.
On respire mal, on finit par s'étouffer, finalement.
Oui, absolument. Absolument, c'est ça.
Et donc, une maladie génétique, il faut que les deux parents soient porteurs ?
Alors, tout à fait, c'est une maladie autosomique récessive. Ça veut dire qu'effectivement, pour que la maladie se déclare chez l'enfant, il faut que ses deux parents soient porteurs. Donc, l'enfant, lui, va collecter les deux mutations, et donc, lui, va être vraiment malade. Alors que, on a beaucoup, en Europe, en fait, et en France, donc, évidemment, on a un porteur sur à peu près entre 25 et 40 personnes. Vous voyez, c'est énorme, en fait, le pourcentage.
Hein,
ça fait 2% pratiquement, quoi.
C'est beaucoup.
Un peu plus de 2%, c'est beaucoup.
Bien sûr.
C'est beaucoup. Mais quand on est porteur d'un seul allèle muté, on n'a pas de pathologie. Le problème, c'est quand on a un conjoint qui a le même, qui est porteur lui aussi, alors là, les risques sont très importants d'avoir des enfants atteints.
Donc on peut avoir deux parents sains et qui finalement
vont donner un enfant malade.
De la maladie et qui vont donner un enfant malade. Et effectivement, c'est extrêmement pénible pour l'enfant, bien sûr, pour les parents.
C'est abominable pour les parents. On a dit, en fait, c'est le poumon qui est touché, mais il n'y a pas que le poumon qui est touché. Il y a aussi le pancréas, il y a le foie, les acides, la production d'acide biliaire.
Et donc,
à côté des troubles pulmonaires, ces malades ont aussi des troubles digestifs sévères, en fait.
Donc, vraiment une qualité de vie totalement dégradée.
Oui, une qualité de vie très, très difficile.
Une espérance de vie très courte.
Ouais.
Alors, bien sûr, on a fait beaucoup de progrès au niveau génétique, avec, vous le disiez, le séquençage, et puis...
la découverte des mutations.
Mutations et des raisons et des effets aussi aux différents niveaux, avec cette protéine CFTR.
Voilà, c'est ça. Peut-être, on va dire deux mots de cette protéine.
Oui, voilà.
CFTR, donc, c'est un acronyme anglais. Vous savez, c'est l'anglais, la langue des scientifiques. C'est l'acronyme de Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator, qu'on pourrait traduire en français par... régulateur de conductance transmembranaire.
Voilà.
C'est-à-dire qu'en fait, cette protéine fait passer des ions...
Qui ne devraient pas passer.
Alors si, justement, il faut que ces ions passent, au contraire. Il faut que ces ions passent et il ne faut pas que leur transfert soit bloqué. Oui. C'est ça. Et justement, alors quand la protéine CFTR est normale, comme chez vous et moi, puisque apparemment nous ne sommes pas atteints...
Théoriquement, les
ions, alors en particulier les anions, c'est les anions chlorure et bicarbonate, peuvent partir de l'intérieur des cellules et aller vers l'extérieur des cellules. Et donc, de ce fait, cette protéine est impliquée dans la synthèse, dans la production du mucus, de la sueur, de certaines sécrétions liquides, en fait, dans tout un tas d'organes.
Les lubrifiants des organes, on va dire, avec beaucoup de guillemets, mais c'est quand même du mucus qui va...
Alors, quand cette protéine est normale, donc le mucus est normal. Et alors, lorsque la protéine est mutée, du fait de mutations sur le gène qui lui donne naissance, eh bien, cette protéine devient inactive. Alors, non seulement elle ne va plus sur la membrane pour faire traverser les ions, se positionner sur la membrane de la cellule, mais en plus de ça, elle est inactive. D'accord. Elle est bloquée. Le canal est complètement bloqué. Et donc, évidemment, la maladie arrive de là. Voilà.
Bien sûr. Et donc, beaucoup de manifestations, dont on a vu pulmonaire, cirrhose biliaire, Donc c'est compliqué, un effet aussi sur les spermatozoïdes,
une sinusite chronique. De spermatozoïdes.
Donc c'est un tableau clinique terrible.
Oui.
Les traitements habituels consistaient en quoi ?
Alors les traitements habituels qui se sont mis en place petit à petit, et c'est ce qui a fait que la durée de vie est passée de moins d'un an dans les années 50 à pratiquement 40 ans dans les années 2015, ce sont les antibiotiques évidemment, les anti-inflammatoires, les molécules mucolytiques, c'est-à-dire les molécules qui viennent casser le mucus, oui, qui est très épaissi dans le cas de la maladie. Et puis, aussi des régimes alimentaires riches en calories et en protéines. Et enfin, la transplantation pulmonaire.
Bien sûr, à la fin. Alors, on le voit, quelques traitements habituels. On va faire une pause et voir justement l'effet de ces traitements et puis le progrès qui a été fait il y a 5 ans. Merci Patrick Morel.
Quand l'écran s'allume, je tape sur mon clavier. Tous les mots sont voix qu'on se dit avec les doigts. Et j'envoie dans la nuit un message pour celle qui me répondra qu'elle trouve un rendez-vous. Message électrique quand elle m'électronique. Je reçois sur mon écran tout son roman. En s'approchant multi et je la tire en duo. Après ok, elle me code ma vélo. Son nom sur mon écran. Je me tape Marilou sur mon clavier. Quand elle se déshabille, je lui mets avec les doigts. Message reçu, ok, code Marilou. J'envoie dans la nuit un
avec vous ce point sur la mucoviscidose et sur les progrès qui ont été faits au niveau des traitements. Donc, on vous évoquait quelques traitements avant la pause musicale. Ça n'était pas suffisant, était bien, mais...
C'était des traitements symptomatiques qui ne soignaient que les symptômes, comme le nom l'indique, mais qui ne traitaient pas la cause.
Exact. Hein? Alors, à présent, est arrivé il y a 55 ans à peu près, une trithérapie avec trois molécules et avec des progrès réels.
Des progrès considérables.
D'accord.
Alors, je vais revenir un peu là-dessus, donc effectivement.
Alors, cette trithérapie.
Cette trithérapie, en fait, elle a été mise au point. Alors après d'un grand nombre d'années de recherche fondamentale,
on l'imagine,
plus d'une dizaine d'années, et elle a été mise en place, disons, pour être mise sur le marché par le laboratoire Vertex aux États-Unis et en Europe. Alors en fait, l'option qui a été choisie dans cette thérapie, ça a été de faire un pari. Nous possédons à l'heure actuelle des banques de produits chimiques de synthèse qui contiennent des millions de produits. Et le pari qu'on se fait, on se dit, voilà, on a une protéine qui est tout à fait anormale.
On va tester.
Est-ce qu'il se pourrait, c'est ça le vrai départ. Est-ce qu'il se pourrait que quand une molécule qu'on va pêcher dans une banque vienne se fixer sur cette protéine, est-ce que déjà elle peut se fixer? Et si elle s'y fixe, est-ce qu'elle pourrait la rendre normale ou améliorer sa fonction biologique?
Bien sûr.
Et c'est ce qui s'est passé. Alors ça a pris beaucoup de temps parce que les chercheurs ont criblé des millions de molécules en fait. Hein. Alors ils ont fait ça à partir de modèles cellulaires in vitro, cellulaires pulmonaires humains, comme toujours, bien sûr, on ne peut pas se permettre de travailler sur les êtres humains dans ce cas-là. Et donc ils ont regardé effectivement la formation du mucus dans ces cellules en culture. Et ils ont regardé comment se comportait la formation de mucus. Donc c'était des cellules malades, évidemment, de malades.
Bien sûr.
En présence des molécules en question, de la banque de produits chimiques de synthèse, est-ce que quelque chose s'améliorait? Et comme ça, ils ont sorti quelques molécules. Ils en ont sorti au moins trois, donc l'Elexacaftor, le Tevacaftor et l'Ivacaftor, qui sont des molécules qui améliorent très, très, très fortement la qualité de la fonction biologique de cette protéine.
Alors au début, la France a donné en 2020 des autorisations extrêmement ciblées pour utiliser chez des patients bien déterminés.
Ouais.
Donc la Haute Autorité de Santé, c'était pas encore un usage extensif.
Ça a commencé par plus de 17 ans.
Et donc, du coup, les résultats ont été bons.
Voilà.
Et
donc on est revenu sur des enfants plus jeunes. Donc maintenant, à partir de 2022, je crois qu'on est passé à des enfants de plus de 2 ans.
D'accord, donc très tôt.
On s'aperçoit qu'en fait, comme beaucoup de maladies rares d'ailleurs, c'est pas la seule, hein, mais comme beaucoup de maladies rares, plus le traitement est démarré tôt chez les enfants, et plus il est efficace. Ça, c'est incontestable.
Les dégâts sur l'organisme sont moindres,
et du coup,
on récupère plus
facilement. Exactement, voilà.
Les fonctions ne sont pas
dégradées. C'est ça.
Donc, est-ce qu'on arrive à une guérison, Patrick Morel?
Alors, justement, ça, maintenant, donc on a, vous avez dit tout à l'heure, en France, ce traitement est autorisé depuis 2020. Il a commencé en 2019 aux États-Unis. Donc, tous les malades de la mucoviscidose en France sont au courant de tout ça.
Bien sûr, ils suivent ça avec précision.
Ils suivent ça avec... C'est tout à fait normal, c'est vital pour eux. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait... c'est la raison pour laquelle j'avais demandé à parler un peu de ça. C'est que tout récemment, donc en 2023, un groupe anglo-américain a fait une étude de modélisation de population sur les malades traités par ce trio de ces trois molécules, en fait, qui leur a permis de faire un modèle prédictif sur l'augmentation de la durée de vie de ces personnes.
Ils ont pu modéliser ça.
Voilà, ils ont modélisé ça. Sous traitement avec CAF-trio, donc le fameux trio. Et ils ont fait ça sur un certain nombre de paramètres pulmonaires, quantité d'air expiré.
Bien sûr, l'efficacité de la respiration.
En une seconde, voilà, c'est ça. Les problèmes d'exacerbation pulmonaire, en fait, les transplantations pulmonaires, etc., etc. Et comme ça, ils ont pu comparer donc ce qui se passait chez les patients qui avaient été traités par le trio et ceux qui, avant 2015, étaient traités avec le traitement normal.
Habituel.
Et donc, comme ça ils ont réussi à montrer que la durée de vie d'une personne maintenant atteinte de mucoviscidose traitée par le trio serait de quasiment une durée de vie normale. Au moins 70 ans, plus de 70 ans. Et si on commence le traitement avant l'âge de 17 ans, entre 12 et 17 ans, on pourrait espérer avoir une durée de vie de l'ordre de 82 ans.
Donc ça,
c'est ça qui est vraiment fantastique, en
absolument
fait.
Notoire
absolument
pour les patients
bien
atteints
sûr.
De mycoviscidose.
Bien sûr.
C'est un espoir exceptionnel.
Tout à fait.
Et donc, finalement les progrès en génétique qui ont permis d'avancer et de à présent pouvoir faire des statistiques sur des grandes populations et avec ça, une extrapolation vers les progrès
c'est
attendus.
Ça. Alors là, c'est justement, alors, je module un tout petit peu ce que vous avez dit, c'est pas une grande population, c'est une population
oui,
de malades.
Patients. Quand je dis grande population,
non,
par rapport à l'effectif total.
Oui, bien sûr. Mais non, et c'est pour ça que ça reste tout de même, je veux quand même être prudent et dire que c'est ce qui est prévu par ce modèle.
Bien sûr.
Et évidemment, on attend maintenant les années pour confirmer cette prédiction.
On va voir si la réalité est conforme
exactement.
À la modélisation, bien
c'est
entendu,
ça.
Et si du coup on est dans les clous, entre guillemets, par rapport à ces progrès attendus pour l'espérance
c'est
de
ça.
Vie. Quoi qu'il en soit, les patients qui sont traités par cette trithérapie, qui n'a rien à voir avec la trithérapie
non,
pour
non,
le sida,
du sida,
hein,
non,
voilà.
Rien à voir.
Les patients qui sont traités par cette trithérapie ont déjà une qualité de vie améliorée
absolument.
Et une espérance de vie améliorée.
Absolument.
Donc ça, on le tient.
C'est ça, on le tient.
Patrick Morel, c'est percutant, c'est intéressant de voir un peu comment ces progrès en génétique arrivent à nous faire résoudre des problèmes majeurs de santé et de santé publique. Donc, on vous attend bientôt sur cette antenne pour faire le point, je l'espère, sur ce progrès qui va être confirmé
au
cours du temps.
Il faudra attendre quelques années encore.
Il faut attendre un peu. Merci Patrick Morel. Je rappelle que vous étiez directeur de recherche à l'INSERM et directeur scientifique dans un laboratoire de biotechnologie. C'est dire que vous êtes la bonne personne pour traiter de ces questions-là pour les auditeurs de Radio Aviva.
Ok.
Merci.
Merci.
C'était Questions de santé.
Questions de santé.
Le rendez-vous santé de Radio Aviva.
You promised a lifetime, but left in a moment. I wonder if you even think about me. Throw me a lifeline, cause I'm barely floating. Stranded and broken. You know you got me lost in the dark. Is it too late? Is it too late for us? You know you got me lost in my heart. Is it too late? Is it too late for us? So high to leave me so low, to leave me so low. Oh, I was wasting my time, hoping you'd call, but damn, you're so cold. Oh, why'd you make me feel safe just to walk away, just to let me go? Oh, why'd you get me so high to leave me so low, to leave me so low? You looked like an angel, thought I was in heaven. But now I'm just falling without you again. I thought I was able to learn from my lessons. Was trying my best, but you know you got me lost in the dark. Is it too late? Is it too late for us? You know you got me lost in my heart. Is it too late? Is it too late for us? Oh, why'd you get me so high to leave me so low, to leave me so low? Oh, I was wasting my time, hoping you'd call, but damn, you're so cold. Oh, why'd you make me feel safe just to walk away, just to let me go? Oh, why'd you get me so high to leave me so low, to leave me so low? To leave me so low, to leave me so low. Oh, I was wasting my time, hoping you'd call, but damn, you're so cold. Oh, why'd you make me feel safe just to walk away, just.
Le DAB+, c'est la radio qui fait sa révolution numérique avec une qualité optimale et des services nouveaux. Passez au DAB+ et appréciez les avantages de la radio numérique gratuite car sans abonnement. Alors n'attendez plus, un poste DAB+, en voilà une belle idée de cadeau. J'aime ma radio en FM, je vais adorer l'écouter en DAB+.
Ici Arthur, je vous propose un programme qui s'appelle Swing Doctors. Ce programme est dédié à la musique de swing, de jazz et de bonne humeur.
Retrouvez Arthur pour Swing Doctors le mardi et le dimanche à 11h.
Aujourd'hui avec Monsieur le Rabbin Daniel Knafo. Monsieur le Rabbin, bonjour.
Bonjour Raphaël.
Monsieur le Rabbin, nous allons parler de la fête de Pessah, Pâques, les Pâques juives. Alors Pessah est une fête très, très importante dans la religion juive. Elle célèbre l'exode des juifs et la création du peuple d'Israël. Elle débute le 14 Nissan, donc c'est-à-dire bientôt. Et elle dure 8 jours. La semaine de Pessah, donc la semaine, c'est une semaine, donc pendant ces 8 jours, c'est séparé en 2 parties. Alors on a les 2 premiers jours qui sont des jours chômés, les 2 derniers jours qui sont des jours chômés, et les 4 jours du milieu où on a le droit de travailler et de faire tout ce qu'on fait dans les jours. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, monsieur le rabbin, sur l'origine de Pessah et sur ce rite des 8 jours?
Alors déjà, juste par rapport aux 8 jours, effectivement, donc on a les 2 premiers jours qui sont chômés, les 2 derniers également, mais au milieu, on a ce qu'on appelle Chol HaMoed, donc il n'y a pas tout qui est autorisé non plus, mais c'est spécifique ce qu'on appelle Chol HaMoed, c'est une étape intermédiaire entre les jours de fête à proprement parler et la fin de la fête, la clôture de la fête. À la clôture de cette fête, on a le 7e jour, Shevi'i, Shel Pessah, qui lui va commémorer par contre la traversée de la mer Rouge. C'est cette fameuse donc épopée du peuple d'Israël qui s'est terminée par la traversée de la mer. Alors l'origine est biblique puisqu'en fait c'est ce fameux exil qui a été principiel, si on peut dire, dans la formation du peuple d'Israël en tant que peuple. Donc les enfants d'Israël qui sont exilés, on va dire, descendent en Égypte avec donc Jacob et sa famille qui descendent en Égypte et qui vont y rester finalement donc pratiquement 400 ans si l'on compte depuis la naissance d'Isaac. Donc finalement c'est une fête qui est, on peut dire, la plus importante, puisque le premier commandement qui a été donné à Moïse, à Moshe, au moment donc de la sortie d'Égypte, c'est justement à Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim, ce mois-ci, en parlant du mois de Nissan, qui est le premier mois donc biblique, d'un point de vue biblique, c'est le premier mois de l'année, qui va être à partir duquel on va fixer le calendrier. Donc c'est cette notion de temporalité qui va apparaître à partir de ce moment-là, par rapport à la sanctification de la Lune, le renouveau de la Lune. On va fixer ce mois de Nissan comme étant le premier. Le 15 du mois, c'est la fête donc de Pessah. C'est la sortie d'Égypte qui a eu lieu le 15. Et à partir de là, on va fixer donc la fête de Shavuot, la Pentecôte, qui se fixe en fonction des semaines depuis le lendemain, donc de ce premier jour de fête de Pessah, jusqu'au donc 50e jour pour arriver à la fête de Pentecôte, de Shavuot. Et à partir de là, donc les autres fêtes vont se positionner, la fête de Soukhot. Voilà. Donc on a 3 fêtes de pèlerinage. Pessah, on est donc la première dans l'ordre biblique, et c'est une fête qui est, on peut dire, la fête qui nous demande énormément d'efforts, puisqu'il va falloir, on va dire, l'ensemble des facultés de l'être humain sont impliquées à l'intérieur de cet ordre divin, le fait de devoir faire un nettoyage de printemps, comme on dirait, mais c'est un nettoyage relativement difficile. C'est quelque chose qui est un peu contraignant, qui peut être un peu vécu lourdement pour certains, mais c'est une fête qui, au final, est très belle, puisqu'elle a une thématique très intéressante, centrée sur la famille, sur la transmission, sur ces valeurs-là qui sont très importantes. Donc c'est une fête qui a son origine dans la Bible. Ce fameux exil avait déjà été prévu, si on veut juste resituer Abraham. Donc au moment de lui annoncer qu'il allait avoir une descendance, on lui dira directement, d'emblée, avant même que son fils soit né, ta descendance sera exilée durant justement 400 ans. Qui guerrier Zaracha, donc ta descendance sera étrangère dans une terre étrangère, et à la fin, donc ils en sortiront. Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est que l'enjeu de l'Égypte, de Mitzrayim, ce qu'on appelle Mitzrayim en hébreu, c'est vraiment ce qu'on appelle la matrice. Donc, il y a même un verset dans le Deutéronome qui dit que Dieu est venu prendre donc un peuple dans les entrailles d'un autre peuple. Donc c'est-à-dire que Israël va se constituer au sein même de l'Égypte et va en sortir. Mitzrayim, ça renvoie justement à cette notion d'étroitesse, on peut dire un confinement de l'esprit, une étroitesse, une limite de l'homme, l'homme dans cet inachèvement qui peut avoir donc une dimension de pouvoir s'élever et vers quelque chose qui est de l'ordre de l'infini. Cet homme-là, donc, qui est d'ailleurs le soir de Pessah, et tourne autour justement de la transmission avec le fils. C'est pas simplement le fils, proprement parler, mais ça peut être même l'homme qui sort de cet état de ce qu'on appelle katan, de petit, à cette dimension de gadol, de grand.
On s'élève aussi moralement, on s'élève aussi.
Absolument.
De toutes les manières que c'est fait. Monsieur le rabbin, l'élément essentiel de cette fête, c'est le seder. Et le seder veut dire en hébreu ordre. Mmh. Alors pendant ce seder, avant ce seder d'ailleurs, qui est aussi un repas, Donc, vous nous parlerez de l'ordre du repas, mais on doit lire la Haggadah. Mmh. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la Haggadah?
Alors, justement.
Qui est un moment important de cette fête aussi.
Oui, tout à fait. Alors, la Haggadah, elle retrace, on va dire, chaque page résume, on va dire, ou plutôt est porteuse d'un enseignement qui est profond. C'est très important parce que non seulement ça retrace le récit de la sortie d'Égypte, mais ça va donc éveiller au questionnement. Et c'est ça qui est important. Alors justement, vous parliez de Seder dans l'ordre des choses. Seder, en hébreu, veut dire un ordre. Donc effectivement, il y a un ordre à respecter. Dans cet ordre, justement, on commence par ce qu'on appelle Kadesh. Donc c'est le fait de faire le Kiddush. On commence, comme toutes les fêtes et comme le Shabbat, on commence par le Kiddush, la sanctification. C'est-à-dire on va donner un sens à cette table qui est dressée. On va sanctifier au moment du repas. Et on va, à ce moment-là, procéder à un ordre très précis, rythmé, donc par des ablutions, le fait de consommer certains aliments qu'on n'a pas l'habitude, de faire en sorte qu'il y ait aussi quelque chose qui sort de l'ordinaire pour que les enfants questionnent et se demandent « Manishtana laïla hazé mikol alelot » cette fameuse question « Qu'y a-t-il de différent cette nuit-là qu'il n'y a pas donc avec les autres nuits ? Qu'est-ce qu'il y a de différent ?» Et justement, parmi donc ce dans l'ordre, il y a ce qu'on appelle Magid. Magid, c'est justement la Haggadah, le fait de raconter. Et ce qui est intéressant, c'est que rien ne peut commencer, si on veut, sans qu'un enfant ait posé une question. C'est ces questions-là qui se font entendre, on va dire, par les nouvelles générations, par le fait qu'il y ait quelque chose de nouveau qu'on vient de nous apporter, ce qu'on appelle un chidouch. Il faut absolument qu'il y ait l'éveil à quelque chose d'autre que nous n'avons pas entendu jusqu'à maintenant. Et si il n'y a pas d'enfant à table, si une personne est seule, eh bien, il faudrait qu'il se pose la question à lui-même. C'est assez intéressant. Et on dit, et d'ailleurs, même si nous étions tous érudits, tous très brillants dans la connaissance, eh bien, nous serions tenus de nous poser la question quand même mutuellement, voire la question à soi-même, de savoir qu'est-ce qui a changé. C'est-à-dire, on veut ici qu'il y ait un éveil à la question. Si nous ne sommes pas capables de questionner, si nous ne sommes pas capables de nous remettre en question, eh bien, nous ne sommes pas capables, si on veut, de sortir d'Égypte. Donc, cette Haggadah, c'est le récit qui va être mélangé d'enseignements, de récits. On va évidemment parler de la sortie d'Égypte. Donc, on va retracer, je pense, même depuis la descente de Jacob en Égypte avec ses enfants, puis l'exil des enfants d'Israël en Égypte, qui a été un asservissement également aussi bien moral que physique. Et ensuite, on parlait de ces fameuses 10 plaies d'Égypte, les 10 makotes. Et c'est là où on va donner certainement un sens un peu différent. C'est que ces plaies, eh bien, en fait, viennent mettre en lumière les 10 paroles par lesquelles le monde a été créé. Si on veut, Dieu ici, qui jusqu'à maintenant était, entre guillemets, muet, invisible, eh bien, va se faire connaître. Il va se faire connaître par son nom. Il va se faire connaître par sa façon dont il a dirigé les événements. C'est une nuit qui s'appelle Leil Shimurim, la nuit de garde, si l'on peut dire. Nous sommes de garde ce soir-là. Voilà. C'est une nuit qui est particulière. On se doit donc de retracer les événements. Donc on va aborder cette question justement des 10 plaies, et justement pour énoncer le lien avec ces 10 paroles créatrices, la première parole créatrice, c'est Bereshit. Bereshit qui veut dire le commencement, mais qui veut dire ce qui est premier, ce qui a été mis premier. Donc il va y avoir cette fameuse plaie des premiers-nés. Nous avons ici mis en valeur ce qui va être premier, considéré comme étant l'origine des choses, vers plutôt cette volonté d'élaborer un projet d'existence qui a une finalité, et ça c'est ce que Dieu a mis en évidence avec cette plaie, et puis bien sûr la plaie de l'obscurité qui précède, et qui est en rapport avec justement la deuxième parole créatrice, quand Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, voilà. Donc il y a vraiment désordre, les 10 plaies font lumière justement sur ces 10 paroles créatrices.
Chers amis auditeurs, nous nous retrouvons après cette courte pause musicale. Restez sur les ondes de Radio Aviva. Aviva.
וקורב קיצה ישוע נקוים נקמס דם עבודך מיומר שם חסוי פזירות bekorev keitza Yeshua Nekoim nekmas dam avodecho meyumar
musicale. Nous nous retrouvons sur les ondes de Radio Viva. Monsieur le rabbin, nous continuons de parler de Pessah, de la fête de Pâques. Donc, vous nous avez parlé de la lecture de la Haggadah. Après cette lecture de la Haggadah, donc, il y a le seder, ce repas traditionnel. Pouvez-vous nous expliquer de quoi est composé ce repas et qu'est-ce que le seder, donc ?
Alors, le seder, comme on le disait, effectivement, c'est cette fameuse, ce fameux rythme donc, qui vient rythmer ce soir-là, cette nuit-là, au niveau des différentes étapes à traverser. Nous en avons plusieurs, elles sont obligatoires. Il y a un ordre à respecter, c'est intéressant, puisque justement la sortie d'Égypte évoque justement ce bouleversement de l'ordre de ce qui était préétabli, puisqu'on a des miracles surnaturels qui sont justement qui viennent bouleverser les lois de la nature. Mais surtout, on a aussi cet effet de comme on dit, que les enfants d'Israël sont sortis à la hâte, Bechipazon. Il y a cet effet donc de sauter les étapes quelque part. Mais là, en l'occurrence, nous devons respecter un ordre très particulier. Et ce seder, donc, dans le seder, nous avons, comme nous avons vu jusqu'à maintenant, plusieurs types d'ablutions, le kiddush, mais surtout après, donc la Haggadah, le fameux récit qui prend la grande partie de la soirée. Essayer de tenir en éveil justement les enfants, c'est ça la difficulté aussi. Mais de les emmener jusqu'à la fin. Donc ensuite, sur ce fameux repas, nous avons aussi un ordre à respecter dans la consommation de certains aliments. Nous avons principalement la matzah. La matzah, c'est ce fameux pain de misère, justement, qui a été consommé au moment de la sortie d'Égypte par les enfants d'Israël. Mais ce qui est intéressant, c'est que Ce pain de misère avait déjà été consommé au préalable. Dans le livre de la Genèse, il apparaît déjà en allusion, et voire même quasiment explicitement, puisque Lot, le neveu d'Abraham, lui avait servi à ses invités. Il avait reçu des invités qui étaient des anges sous l'apparence humaine. Il leur avait servi de la matza, du pain azim. Et Rashi, un commentateur célèbre qu'on ne présente même plus, qui nous dit que c'était Pessah. Alors c'est très étrange, parce qu'on a cette notion de Pessah avant même l'événement de la sortie d'Égypte. Donc en fait, effectivement, il y a cet événement qui vient donner l'obligation de respecter justement les commandements, les différents commandements que l'on doit suivre, mais savoir qu'il y a aussi un sens profond aux choses qui nous échappe peut-être. Et le sens de la matza, si on pouvait en donner peut-être une petite explication, c'est ce pain azim qui justement ne fermente pas. Il ne fermente pas, on ne lui laisse même pas le temps de fermenter, puisque c'est un pain qui doit être travaillé dans un temps qui lui est réduit, il ne doit pas fermenter, on doit le travailler en permanence pour éviter justement qu'il fermente, et il est totalement pur, puisqu'il n'a pas d'agent extérieur, il est composé d'eau et de farine uniquement. Donc, à l'image, on l'appelle le lechem oni, le pain du pauvre, le pain de misère. Mais le Talmud nous dit lechem chez onim alav dvarim arbe. C'est un pain sur lequel on fait un jeu de mots entre oni, qui veut dire la misère, et onim, sur lequel on répond, sur lequel on fait entendre beaucoup de choses. C'est ce pain qui nous permet donc de parler. D'ailleurs, rappelez évidemment que le mot Pessah veut dire passer, comme Dieu qui est passé au-dessus des maisons des enfants d'Israël. Mais Pessah veut dire, en un jeu de mots, Pessah, la bouche. En hébreu, P, c'est la bouche, Sar qui raconte. Donc il y a des choses à raconter à partir de ce pain. Le fait que, à l'image du pauvre, qui est, on va dire, lui-même, puisqu'il ne dépend de personne, il n'est soumis à rien, il reste entier, il reste lui-même, eh bien, ce pain doit également évoquer cette dimension, justement, de liberté. Le fait de ne pas être esclavagisé, le fait de pouvoir s'arracher à cette dimension de soumission quelconque, que ce soit envers un homme ou vers autre chose qui nous contraint et qui fait que nous ne sommes pas nous-mêmes. Ça c'est cette dimension donc de la matza. En dehors de la matza, il y a posé également à table d'autres choses, notamment ce qu'on appelle le charoset. Alors le charoset, justement, c'est une sorte de confiture que l'on fait avec des fruits très particuliers, la date, la pomme. Chaque fruit qui sont justement utilisés pour cette charoset viennent évoquer en allusion dans des versets, comme par exemple la pomme, on dit tachatata puar orartira, ça fait une allusion aux mères qui ont enfanté donc sous un pommier, mais c'est une allusion qui est très intéressante parce que le pommier c'est un des arbres dont la fleur vient avant la feuille et il y a des allusions qui sont faites là-dessus, mais en tout cas ce sont des fruits qui symbolisent Israël, qui symbolisent donc les enfants d'Israël que l'on doit consommer, qui nous rappellent le mortier. Donc au sein même de cette Agada, on évoque à la fois, comme on a dit, l'espoir, mais également la tristesse, l'amertume. Nous allons également consommer des herbes amères en souvenir du fait que les Égyptiens ont rendu la vie amère aux enfants d'Israël. Mais il va y avoir également un œuf. Alors là, c'est intéressant aussi, cet œuf-là. Cet œuf est justement placé à table. Il est censé remplacer un sacrifice que nous ne pouvons plus offrir. Et on évoque à ce moment-là, indirectement, la chute de Jérusalem. Et nous sommes quelque part en deuil par rapport à Jérusalem. Et cet œuf-là est un mets que l'on consomme quand une personne, justement, est endeuillée. Il consomme un œuf. Et juste rappeler, ce qui est intéressant, c'est que le soir du Seder de Pessah tombe toujours le même jour de la semaine que le 9 Av. C'est-à-dire que si Pessah tombe un mercredi, eh bien, Tisha B'Av tombera le 9 Av, qui commémore la destruction du Temple, eh bien, tombera forcément un mercredi. Donc ce lien est quand même assez fort. Donc voilà, ça c'est au niveau de ce qu'on consomme. Et chaque fois que l'on consomme un aliment, justement, on se demande pourquoi est-ce qu'on le consomme. Il y a toujours ce rapport à la question.
Après, on a sur la table aussi, monsieur le rabbin, un plateau. Vous avez commencé à l'évoquer, mais on met différentes choses dans ce plateau. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'importance de ce plateau et qu'est-ce qu'on met dedans ?
C'est les mets qu'on a cités figurent dans le plateau, justement. On a la charoset, on a ce fameux cet œuf, on a aussi le zeroa, l'épaule. En général, on prend une épaule d'agneau. L'agneau qui symbolise également la fragilité. L'agneau est un animal fragile. À l'image de cet esclave qui était fragile, on a justement ces matzot, les trois pains azim. On en a trois. Deux, comme chaque fête et chaque Shabbat, où on a le devoir d'avoir deux pains différents, plus un qui est cette matza supplémentaire, qui est cette obligation ce soir-là de consommer de la matza. Les autres jours de la fête, nous n'avons pas l'obligation de consommer de la matza, mais nous avons par contre l'interdiction de consommer du chametz. Rappelons simplement que le chametz, c'est ce qu'on appelle le levain. C'est très particulier, hein. C'est une fête où il faut éliminer le chametz de sa consommation. C'est d'ailleurs, je crois, la seule denrée alimentaire que nous n'avons pas le droit non seulement de posséder, de consommer et d'en tirer profit. Donc c'est particulier. Ce chametz évoque également la fermentation. Ça peut symboliser l'orgueil également. Les choses qui fermentent en nous. D'ailleurs, c'est ce que l'on fait la veille de Pessah. Nous procédons à la recherche du chametz pour l'éliminer. C'est-à-dire qu'à la lumière d'une bougie, comme on le ferait, donc on évoque souvent « Ner Elohim Nishmat Adam ». L'âme humaine est une flamme, est un nerf, justement, une bougie qui éclaire. Et donc, on vient quelque part symboliser le fait que l'on recherche dans les recoins de notre cœur, dans les endroits où se seraient logées, justement, ces choses-là qui fermentent, qui empêchent l'homme de pouvoir grandir. Donc, on vient rechercher en soi, c'est un travail que l'on fait sur soi également, ce travail de nettoyage, si l'on peut le dire. Donc, dans ce céder-là est posé donc, tous les éléments qu'on a cités, et puis une fois qu'on les a consommés, bien sûr, on passe au repas. Mais le principal, ça va être la suite, c'est ce fameux Hallel, ces fameux louanges que l'on fait.
Après le repas.
Après le repas, plus après bien le sûr repas. Le Birkat Hamazon, bien sûr, les actions de grâce après le repas.
Monsieur le rabbin, vous avez parlé tout à l'heure d'enfants. Donc on ne peut parler que de transmission de cette fête qui est célébrée depuis des millénaires. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette transmission et l'importance de cette transmission ?
Eh bien oui, le soir du Seder, c'est le soir le plus important de la famille juive, si l'on peut dire, puisqu'il y a la thématique autour de l'enfant. Il faut, comme on a dit, il faut éveiller cet enfant, il faut qu'il puisse trouver sa place à table. Il y a quatre types d'enfants, comme on l'a dit rapidement tout à l'heure, c'est le chacham, l'intelligent, le rachat, qui est opposé au chacham, bizarrement. Alors on aurait pu opposer le mécréant au tzadik, à celui qui est juste, et pourtant non. On oppose celui qui est chacham, avec celui qui sait questionner, celui qui est pertinent, et celui qui est rachat, c'est-à-dire qui ne se sent pas concerné. Et on a également le tam, celui qui est simplet, à lui il faut dire at petachlo, un langage féminin, c'est intéressant, comme si... pardon, c'est le Sheino Yode Alishol, sur qui c'est il est dit ça. At petachlo. Le tam, c'est Bechosekiad. Donc c'est le tam, c'est le simplet pas... qui va nous dire mazot. Quel est ceci, sans savoir vraiment pertinemment de quoi
et
il s'agit.
Après, il y a celui qui ne s'est pas posé de questions.
Celui qui ne s'est pas posé de questions, à qui il faut donner la possibilité de le faire, en peut-être lui donnant un peu plus de sensibilité aux choses. Voilà, c'est le côté féminin qui lui manque peut-être. En tout cas, voilà, nous avons cette thématique autour de l'enfant, et c'est important aussi, on dit « Veigata levincha bayamahu ». Tu raconteras à ton enfant, ce soir, nous avons également un devoir quotidien, « Veshinantam levanera ». Tu enseigneras les paroles de Torah, de sagesse à tes enfants, et également Veigata Levincha Bayomahu, ce soir-là, tu as l'obligation de raconter Agada Veigata. Donc on a l'obligation de raconter la sortie d'Égypte, et plus on passe de temps à raconter, plus on est méritant. C'est ce qu'on nous dit. Que la marbé les saper a résé Meshubar. Voilà, l'image de ces sages qui étaient accoudés ensemble, Abné Brak, on commence d'ailleurs le récit de l'Agada ainsi, avec Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, qui étaient accoudés, et puis les élèves étaient venus leur dire « Igi Azman, Kriyat Shema Shel Shacharit » est venue l'heure de réciter le schéma du matin, comme si, justement, il y avait ce passage.
Donc quoi, la nuit, ils avaient passé toute la nuit.
Absolument, ils ont passé toute la nuit à raconter, mais surtout pour nous indiquer comme si cette nuit-là avait déjà en elle un espoir de jour. Elle était déjà en pleine lumière, et on vient nous faire raconter justement que celui qui s'imprègne de ce moment-là pourra mériter la délivrance.
Merci monsieur le rabbin pour toute cette précision sur la fête de Pessah. Chers amis auditeurs, nous nous retrouverons la semaine prochaine, donc vendredi prochain, monsieur le rabbin, pour une nouvelle émission. Chers auditeurs, merci et bon week-end. Quelque chose dans la voix qui paraît nous.
toi. Si tu l'as.